musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
La transition énergétique est en action depuis de nombreuses années. Sur l'Île-Dieu, où en est-on en 2017? Quels sont les projets finalisés en cours et à venir dans les prochaines années? On en parle plus en détail avec Michel Chorot. Bonjour.
Bonjour Roland.
Vous êtes adjoint au développement économique et transition énergétique à la mairie de l'Île-Dieu.
Tout à fait.
Samuel Le Goff, bonjour.
Bonjour Roland.
Vous êtes responsable et chef de projet de mission à transition énergétique UE 2030 à la mairie de l'Île-Dieu.
Chargé de mission, oui, tout à fait.
Le programme transition énergétique UE 2030 existe depuis combien d'années sur l'Île-Dieu, Michel?
C'est à peu près, je dirais, depuis 5 ou 6 ans. Enfin, à peu près, ça avait été démarré dans le premier mandat de maire de Bruno Nourry. Puis après, nous l'avons continué. Alors, c'est peut-être une explication parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre. Les gens me disent, mais attends, ouais, transition énergétique.
Simplement, à quoi ça sert?
Voilà. Alors,
ce programme.
Nous voulons donner un avenir à l'Île-Dieu, un avenir économique à l'Île-Dieu. Mais nous savons que jamais sur l'Île-Dieu, il y aura des industries comme il peut y avoir des industries dans certaines zones industrielles ou artisanales sur le continent.
Par exemple, STX.
Par exemple, même si on ne va pas de manière aussi importante, il y a quand même des industries comme on en fait, il y a pas mal de zones industrielles en Vendée. Hein, parce qu'il y a la question de l'insularité, du transport maritime, que tout est plus cher qu'ailleurs, etc. Et par contre, nous savons que avec la révolution numérique, et la révolution énergétique qui n'a rien à faire finalement des frontières, l'Île-Dieu sera au même niveau que les autres. Bon, et c'est là qu'on se dit, il faut que nous soyons exemplaires dans tous ces domaines innovants pour pouvoir attirer et faire venir des gens qui vont s'installer chez nous.
La fibre ne fait pas partie de la transition énergétique, si, Samuel ou Michel?
Pour moi, la fibre est un des éléments que nous avons pris en compte dès la création de UE 2030. Et nous l'avons suivi parce que ça fait partie pour nous des éléments liés à l'excellence numérique.
C'est ce qu'on appelle l'économie numérique. Et ces nouvelles formes d'économie font tout à fait partie de la vision et de la stratégie donnée à travers UE 2030. Il y a aussi les TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui sont de plus en plus nouvelles et de plus en plus rapides, et de plus en plus efficaces. Ça fait aussi partie des nouveaux métiers, des métiers en lien avec le télétravail, par exemple, qui peuvent se mettre en place sur l'Île-Dieu, puisque maintenant, ça devient facile de travailler sur l'Île-Dieu à distance, par exemple.
Le télétravail, c'est l'avenir de l'Île-Dieu? Enfin, ça fait partie de l'avenir de l'Île-Dieu?
C'est une des possibilités. Nous en avons parlé, ça fait déjà maintenant 7 ou 8 ans. Et puis, nous avons eu à un moment donné quelques touches. Et puis, ça ne s'est pas mis en place. Et là, maintenant...
Il n'y avait pas assez de débit sur l'Île-Dieu.
Exactement. Exactement. Et donc, l'arrivée de la fibre, il ne faut pas croire, Roland, qu'elle est venue toute seule. Si la fibre vient sur l'Île-Dieu, c'est qu'il y a eu vraiment une pression, un travail, du lobbying qui a été fait par la mairie de l'Île-Dieu auprès du conseil départemental.
De la Vendée.
De la Vendée et auprès
de
du conseil régional de la région. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis les contacts qu'on pouvait avoir déjà avec Orange et avec le CIDEV, hein, sont avec entre autres Vendée Numérique, hein, qui dépend donc du CIDEV. Tout ça sont des éléments qui font partie de UE 2030, la transition énergétique, bien sûr.
On peut dire que le programme UE 2030, transition énergétique, c'est de rendre l'Île-Dieu plus verte et plus autonome en termes d'énergie, non Samuel?
Oui, en fait c'est ça, Roland, tu as tout à fait raison. Si on prend des exemples très simples, en fait, des fois quand je discute avec des gens dans la rue, on me dit « Oui, mais est-ce que le bâtiment ou la rénovation des bâtiments, ça fait partie de la transition énergétique ?» Mais oui, ça fait tout à fait partie des sujets que l'on traite à travers la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? C'est comment consommer moins et consommer mieux. Donc, c'est comment faire des économies d'énergie à travers la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple. Mais il y a aussi toute la question de la mobilité. Comment se déplacer sur l'Île-Dieu autrement, de manière électrique, avec la
On
mobilité électrique, par exemple.
On pense notamment aux voitures et vélos électriques.
Oui, tout à fait. Et après, cerise sur le gâteau, on peut produire en local sur l'Île-Dieu et faire et développer les énergies renouvelables. Et donc là, on aurait réussi la transition énergétique.
C'est en cours ou à venir ?
Ce qui est en cours pour l'instant, c'est toute une réflexion qui est en train d'être faite dans un des groupes de travail d'île en transition sur comment concilier le respect du PLU et des paysages et des maisons traditionnelles du lieu avec l'implantation de panneaux photovoltaïques ou de panneaux thermiques. Et ça, il y a tout un groupe de travail qui est là-dessus. Et il est sûr que dans ce domaine-là, on va avancer quand même pas mal dans les mois qui viennent. En fonction du PLU tel qu'il est, qui donne déjà des possibilités, il y a déjà beaucoup à faire avec la possibilité d'implanter sur des toitures qui seraient bien exposées qui seraient, par exemple, dans des endroits, dans des rues, dans des routes où il n'y aurait pas trop d'impact visuel directement auprès de l'espace public, quoi. Maintenant, l'implantation d'un panneau photovoltaïque ou d'un panneau thermique, c'est en grosso modo sud, sud-est ou sud-ouest. Voilà, c'est ça l'implantation. On peut lui faire faire quand même faire prendre un angle de 45 degrés de part et d'autre du sud.
Pour l'Île-Dieu, la transition énergétique, c'est aussi les baies vitrées dans les habitations.
Exactement. Et là, le PLU a beaucoup ouvert, parce que, comme vous le savez maintenant, et ça aussi, ça fait partie d'une des conséquences de la mission de transition énergétique 2030, c'est que le PLU a pris en compte la possibilité, quand c'est sur la partie intérieure des maisons, sur les jardins,
c'est le même principe, il ne faut pas que ça se voie de la route.
Il ne faut pas que ça soit trop de la route. Voilà, c'est ça. Et donc là, par contre, on peut ouvrir. On peut mettre des vitrages importants. On peut avoir un accès direct, je dirais, au soleil. Et c'est même plutôt conseillé.
Samuel, oui, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, simplement un petit mot, justement, parce qu'on parle de bâtiments et de projets en lien avec la construction. On a réussi, justement, à mettre en place aussi sur l'île-lieu des permanences de l'espace info-énergie qui permettent de répondre à tout ce type de questions sur la rénovation, sur la construction neuve, etc. Compatibilité avec le PLU. Et donc, il y a tout un tas d'informations sur les aides financières aussi à avoir. Donc là, il ne faut pas hésiter aux gens, aux particuliers et aux professionnels du bâtiment aussi, pourquoi pas, de se renseigner avec l'espace info-énergie qui font des permanences délocalisées et en particulier sur l'île-Dieu.
C'est vrai que pour les particuliers, il y a pas mal d'aides, mais ce n'est pas simple de s'y retrouver.
C'est pour ça qu'il y a...
Est-ce que c'est le rôle de l'espace info-énergie?
C'est pour ça qu'il y a, voilà, qui permet de guider par rapport au projet, par rapport au montant dont vous avez, quelles sont les aides financières disponibles par rapport à votre projet. Des fois, ça permet d'aller plus loin, ça permet de faire des projets plus cohérents, plus global, par exemple, sur une maison. Et du coup, l'espace info-énergie permet d'affiner le projet main dans la main avec le particulier.
Oui, Michel.
Oui, donc là, nous espérons bien, dans les mois qui viennent, pouvoir revenir sur Neptune et puis annoncer comme la bonne nouvelle de la création d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique pour l'habitat.
Pour faire simple, c'est un bureau.
Alors, pour faire simple, ce sera un lieu et un animateur. Et cet animateur dans ce lieu pourra recevoir toutes les personnes qui sont soit ont un projet de construction ou soit ont un projet de rénovation ou souhaitent avoir un certain nombre d'informations avant de prendre toute décision. Et à partir de ce lieu, la personne sera mise en contact direct par cet animateur avec l'ensemble des services qui pourront l'aider dans son projet de construction, de rénovation, dans ses conseils.
Ce que vient de dire Michel, c'est intéressant parce que la plateforme qui est en fait un guichet unique qui permet d'accompagner les particuliers de A à Z sur des projets de rénovation, on a pu se le permettre notamment grâce au territoire énergie positive pour la croissance verte. Ça a été vraiment un coup d'accélérateur qui nous a été donné par l'État. Ça a été une forme de reconnaissance sur le travail accompli sur l'île-Dieu en la manière, au niveau des initiatives déjà mises en place, etc. Et ça a permis d'aller vraiment plus loin sur l'ensemble de toutes ces actions-là. On a parlé du bâtiment, on a parlé de la mobilité, notamment sur ces deux aspects-là. On a pu déclencher deux conventions avec l'État et ça a permis d'aller beaucoup plus loin. On parlait de mobilité électrique, ça nous a permis de... on va pouvoir avoir un bus électrique dans quelques mois. Ça nous permet de pouvoir construire des pistes cyclables sur Lisieux. Sur le bâtiment, ça nous permet de pouvoir rénover l'hôtel de ville. Donc ces initiatives-là ont été reconnues à un moment donné par l'État, par le territoire énergie positive pour la croissance verte, et ça nous permet d'aller plus loin. Donc c'est vraiment intéressant comme terme de démarche.
Cette convention a été signée en février 2015.
Était signé en février 2015, c'était la première convention, plus particulièrement ciblée, enfin, la priorité était mise plus particulièrement sur la mobilité. Et donc, on a foncé dedans, bien évidemment.
Mobilité, comme on parlait tout à l'heure, vélo et véhicules électriques et bus électriques maintenant.
Et hydrogène. Il y aura certainement des possibilités énormes avec l'utilisation de l'hydrogène. C'est une énergie qui n'est pas polluante, et qui nous permettra, comme ça utilise l'eau et l'air, qui nous permettra de pouvoir se mettre un peu partout, entre autres dans le transport, mais pas uniquement que dans le transport. Donc là, nous sommes en lien direct là, avec un ensemble de partenaires. Alors, il n'y a pas encore de projet direct, simplement il y a 4 véhicules électriques qui sont actuellement à la propriété de la mairie grâce au territoire, grâce au au TEPCV.
Territoire énergie positive pour la croissance verte.
Et qui pourront ensuite bénéficier aussi de ce qu'on appelle des prolongateurs d'énergie. C'est-à-dire qu'au-delà de la consommation d'électricité, une recharge pourrait être faite directement à partir de production d'hydrogène.
Samuel, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, en fait, deux choses par rapport à l'hydrogène. L'hydrogène permet d'aller plus loin, donc c'est un prolongateur d'autonomie, donc ça permet de moins recharger le véhicule et d'aller plus loin. On double l'autonomie des véhicules électriques par rapport à l'hydrogène.
Et donc les batteries électriques dureront plus longtemps.
En fait, c'est ça. Ouais. Ça permet d'aller plus loin, plus longtemps. Et l'autre avantage, c'est que ça permet d'améliorer la disponibilité du véhicule. Si, par exemple, avec un véhicule, un bus, une voiture, etc., on arrive à plat, on recharge d'hydrogène et c'est reparti pour un tour. Donc si, par exemple, on en a besoin pour rouler, pour faire une autre navette, etc., ça améliore la disponibilité du véhicule. On n'est pas obligé d'attendre la nuit que le véhicule se recharge. Et puis, une deuxième chose que je voulais dire, il faut prendre un petit peu recul par rapport au projet hydrogène. On le fait main dans la main avec le CIDEV, hein, qui est le syndicat d'énergie au niveau du département de la Vendée. Et on travaille avec eux parce que ils vont avoir de l'énergie disponible et de l'énergie à revendre. On arrive en 2017, il y a le parc éolien de Boin qui va sortir du tarif d'achat au niveau du CIDEV. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie ? L'idée, c'est de l'envoyer sur le réseau quand on en a besoin, mais quand on n'en a pas forcément besoin, mais qu'il y a du vent et que les éoliennes tournent, l'idée, c'est de la stocker pour qu'elle soit disponible et réutilisée plus tard. Et la vraie qualité de l'hydrogène, c'est notamment de ça. C'est pouvoir réutiliser l'hydrogène quand on en a besoin en tant que stockage d'énergie.
La stocker où, par contre ?
C'est justement la stocker sous forme d'hydrogène. C'est-à-dire que quand on a de l'électricité, on produit de l'hydrogène. Donc, on la stocke hein, dans des bonbonnes, etc. Et puis, quand on en a besoin, on fait le mécanisme inverse. Et à partir de l'hydrogène, on produit de l'électricité.
Or, hydrogène, quels sont vos autres projets en cours ou à venir pour la transition énergétique sur les lieux ?
Il y a actuellement quelque chose qui va démarrer prochainement. Nous sommes tout à fait, ça va demander forcément du temps. On parle depuis très très longtemps, et les îles, ça vient. La mairie telle qu'elle est, le bâtiment de la mairie, hein, je veux dire, est un bâtiment qui date du milieu du XXe siècle. Et qui est complètement, qui est certainement l'un des bâtiments les moins bien isolés de l'ensemble du parc immobilier.
Donc le plus énergivore.
Absolument. Et donc actuellement, c'est la collectivité qui donne le plus mauvais exemple. Donc, mais ça coûte extrêmement cher pour pouvoir rénover. Et en même temps qu'on rénove, on s'est dit qu'il faudra aussi agrandir. Donc nous avons pris le taureau par les cornes et nous démarrons maintenant un travail. Les appels qui vont être faits à un concours d'architectes pour pouvoir d'une part rénover la partie qui existe avec une nouvelle façade hein, qui sera avec une isolation par l'extérieur, des nouvelles ouvertures. Donc déjà la façade sera des volets bien sûr, façade serait autrement plus jolie qu'elle ne l'est actuellement. Et puis, une nouvelle distribution intérieure avec, pareil aussi, des isolations beaucoup plus fortes au niveau intérieur ainsi qu'au niveau de la toiture. Et puis, alors ça, si ça a été possible, c'est parce que, encore une fois, l'État a considéré que l'Île-de-Dieu était un très bon élève en matière justement de volonté d'innover, d'être exemplaire en matière de rénovation énergétique, et donc nous aide financièrement, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a 200 000 euros.
Oui, c'est ça. Ça,
de 200 000 euros.
200 000 euros de l'État français.
Oui, de l'État, oui, sur titre, donc toujours de ce...
De la transition énergétique du programme de 2030.
Voilà, c'est ça. Et puis, à cette somme, s'ajoutent bien sûr des financements, d'autres financements de l'État pour aider les collectivités et des financements du département et de la région. Et donc, nous nous sommes dit, puisqu'on démarre sur cette partie des rénovations de la partie de la mairie qui existe, nous allons en profiter pour faire aussi des travaux d'agrandissement. Et donc, derrière le bâtiment qui existe, le long de la rue Roquenon, la petite rue, on va donc, à terme, démolir ce qui existe et puis faire du neuf qui sera aussi des bâtiments de très basse consommation, donc BBC, hein, qui bénéficiera aussi de financements spécifiques et en plus que nous pourrons financer par la revente des bâtiments que nous n'utiliserons plus, par exemple rue de la Victoire, hein, et que l'on pourra donc remettre en vente. Et en fait, on vendra des bâtiments que nous n'utilisons plus ou des terrains qui ne sont pas utiles pour nous dans l'avenir. Et par contre, on investira dans de nouveaux bâtiments de la mairie. Voilà, ça aussi, c'est une des conséquences du programme Transition énergétique UE 2030.
Toujours dans le programme Transition énergétique UE 2030, la gestion des déchets, ça rentre dans la transition énergétique, le programme UE 2030, Samuel ?
Alors oui, en fait, on a un service qui gère ça, hein, directement, c'est le service environnement, dont ça fait partie de la mission. Mais tu as tout à fait raison, Roland, parce que toute la problématique des déchets, des gestions de déchets, forcément, ça fait partie de la transition énergétique. Parce que les déchets, quand on en a trop, qu'on ne sait pas quoi en faire, tu le sais aussi bien que moi, ils ont été renvoyés sur le continent, ils sont toujours renvoyés sur le continent. Et l'idée derrière ça, puisque ça coûte énormément d'énergie, ça coûte aussi beaucoup de sous, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser et faire... au mieux avec nos déchets sur l'île-Dieu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire du compost, utiliser nos déchets organiques pour faire du compost, par exemple. Et puis, l'idée, c'est comment revaloriser une bonne partie des déchets pour en mettre le moins possible dans la poubelle. Et la politique de redevance incitative va aussi dans ce sens-là. L'idée, c'est de pouvoir réduire le volume et la quantité de déchets pour que, justement, ça coûte moins à la collectivité et ça coûte moins en énergie. Donc oui, c'est de la transition énergétique.
On a parlé de la commune de l'Île-Dieu, du département, de la région, de l'État et l'Europe. Elle vous aide dans ce programme ?
Alors,
Samuel ou Michel ?
Oui, tout à fait. L'Europe nous aide aussi dans ce programme par...
C'est ce que vous appelez les îles intelligentes, non ?
Alors, voilà, mais ça, là, c'est ça. Alors, il y a deux choses.
Deux volets.
Il y a d'une part l'aspect financier, où, par exemple, grâce à des programmes européens, tel que le programme Leader, nous avons pu, par exemple, financer une étude dont on parlera certainement un jour, mais qui est pour l'instant, c'est une étude qui vient de démarrer, c'est l'utilisation aussi de l'air comprimé pour pouvoir emmagasiner de l'énergie. Hein, et ça, c'est un petit peu juste parce que l'étude vient juste de démarrer. Ça a été présenté aux élus. Mais ça, c'est une étude, par exemple, qui est financée par le programme Leader de l'Union européenne. Tout à fait.
Samuel. Voilà.
Alors, on a le volet financement dont on bénéficie de l'Europe pour tout un tas de choses. Mais il n'y a pas que sur cette étude, mais il y a du Leader sur le projet Terre Fertile. Il y a du Leader sur des projets de pistes cyclables, par exemple. Enfin, tout ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que toutes ces initiatives-là et toutes ces actions en termes de transition énergétique, on n'est pas tout seul à le faire sur l'île-Dieu. Et ça se fait dans beaucoup d'autres îles dans l'ensemble de l'Europe. Et ce que tu parlais tout à l'heure des îles intelligentes, justement, c'est un peu ça la thématique. C'est comment est-ce que les îles au sein de l'Union européenne s'organisent et ont une dynamique collective qui va un petit peu dans ce sens-là. Il faut savoir que les territoires insulaires premièrement, ce sont les premiers qui seront en face des aspects du changement climatique, avec l'augmentation du niveau de la mer, le risque de tempêtes de plus en plus aggravé, etc. Donc ce sont les premières en ligne de mire sur ces questions-là. L'autre aspect, c'est que, de fait, sur les questions de transport, sur les questions d'énergie, sur les questions de déchets, elles sont forcément aussi en contact direct avec ces problématiques-là, et beaucoup plus rapidement que le continent.
Il y a aussi la préservation de la biodiversité.
Absolument. Et ça, effectivement, là-dessus, on a des financements européens également.
Et l'Europe souhaite justement encourager ces initiatives-là et favoriser des dynamiques collectives qui se mettent en place dans l'ensemble de ces îles européennes. On n'est pas du tout les seuls à le faire. On avait une réunion avec le Comité économique et social européen. Ils sont venus d'ailleurs sur l'île Dieu, c'était en fin d'année dernière, pour justement faire un état des lieux sur ce qui se faisait au niveau de l'île Dieu et pour remonter ces initiatives-là à l'Europe. Et on voit qu'en Espagne, en Italie, avec l'île de Favignana, avec Samsø, qu'on connaît un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y a une île autonome en énergie au Danemark, il y a des îles en Grèce, il y a des îles en Estonie. Toutes ces îles-là, elles vont aussi dans le sens de la transition écologique et dans le sens de la transition énergétique. Et donc, on voit bien que ça ne se passe pas que à l'île Dieu, ça se passe un petit peu partout en Europe. Et on essaye de fédérer un petit peu toutes ces bonnes initiatives, ces retours d'expérience pour voir comment ça marche chez vous, comment est-ce que vous faites là, essayer d'encourager un petit peu tout ça.
Et prochainement, un forum, Samuel.
Alors oui, en fait, on a signé là dernièrement le 28 mars à Bruxelles la déclaration des
28
îles.
28 mars dernier.
Ouais, c'est ça, la déclaration des îles intelligentes, justement pour commencer à fédérer et organiser une dynamique collective autour de ces initiatives-là. Et concrètement, ça va s'organiser sous forme de forum pour faire état des retours d'expérience sur des projets qui ont fonctionné sur une île et pas sur une autre, etc. Voir un peu comment ça se passe, quels sont les objectifs qu'a Samsø, comment est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que Favignana, qui est une petite île à l'ouest de la Sicile en Italie, sur les aires marines protégées, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, est-ce que ça les a réussi. Et l'idée, c'est de fédérer un petit peu tout ça et d'en prendre de la graine, justement.
Toutes les îles européennes ont les mêmes problématiques ?
De fait, oui. Les problématiques de transport, les problématiques d'énergie, les problématiques de déchets, tout ça, les problématiques de développement économique. Il y a aussi toute une question sur comment maintenir sa population sur son île. Ça a été largement abordé à l'occasion de cette réunion-là.
Le 28 mars dernier à Bruxelles.
Voilà.
Est-ce que vous avez parlé de tourisme?
Ouais. Alors évidemment, et par exemple, c'est une grande question à Majorque. À Majorque, on sait très bien que elle a été abreuvée de tourisme de masse, etc. Et la grande question à Majorque maintenant, c'est comment sortir un petit peu de cette étiquette-là, qui commence à leur porter préjudice, et justement avoir un tourisme un peu plus durable, avoir une autre étiquette, et comment développer un petit peu d'autres activités en dehors de ce tourisme de masse-là, qui a été très bénéfique pendant beaucoup d'années à Majorque. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est bon de regarder un petit peu quelles sont les autres solutions, et c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire.
Oui, si je peux me permettre, effectivement.
Michel.
Donc, l'île Dieu fait donc partie de ce réseau des îles européennes. Les îles, elles sont dites intelligentes, mal terme, j'avoue, me paraît un peu pompeux. Mais
oui,
parce que
la traduction, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, c'est vrai que Smart Island, ça veut plutôt dire les îles futées, les îles qui arrivent à se débrouiller, en fait.
Ce sont les îles malignes.
Les îles autonomes, enfin presque autonomes.
Oui, débrouillardes, futées. En fait, c'est plus futées.
C'est ça, les îles, voilà. Et c'est le terme qui a été traduit de l'anglais, les îles intelligentes, ça fait un peu rire. Les îles futées, moi, je me retrouve tout à fait dans le terme des îles futées. Mais il faut voir aussi que nous en partie aussi du réseau des îles du Ponant, les 15 îles donc du Ponant. D'ailleurs, à cette occasion, c'était l'île Dieu qui représentait l'ensemble des îles donc du Ponant à cette signature. Et on retrouve...
Le 28 mars dernier à Bruxelles.
Voilà, et on retrouve exactement les mêmes problèmes, les mêmes types de solutions. On n'est pas les seuls.
Samuel, il y a beaucoup d'aides qui viennent de l'Europe pour tout ce qui est transition énergétique.
En fait, pas que pour la transition énergétique. En fait, les politiques européennes, ça touche pratiquement...
Non, mais on parle de la transition énergétique.
Voilà, tous les sujets de la vie quotidienne. Mais c'est vrai que concrètement, on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais il y a beaucoup d'aide financière, de parfois d'aide technique, parce qu'on a des techniciens à travers Leader qui nous permettent de voir comment développer tel ou tel projet. Donc on a tout un tas d'outils qui sont mis à disposition par l'Europe. Justement, cette initiative-là des îles intelligentes ou des îles futées, ça nous permet de mettre en place, par exemple, des plateformes de partage sur des retours d'expérience qu'on peut retrouver dans telle ou telle île. Comment est-ce que SAMSE a réussi en 10 ans sa transition énergétique? Voilà, ça on pourra réussir à le savoir justement en communiquant plus et en essayant à prendre des bonnes idées qu'a réussi SAMSE, voir si c'est transposable chez nous, parce que des fois il y a des impératifs réglementaires que c'est pas aussi facile que ça de le faire chez nous, mais voilà, il y a peut-être d'autres manières d'arriver.
En parlant d'initiative, la ferme panneau photovoltaïque au Corbeau, c'est en cours, c'est finalisé, on a une date, ça va se faire, ça va pas se faire, Michel ou Samuel?
C'est à cet endroit-là que serait le mieux placé une ferme photovoltaïque, puisqu'en fait, sur cette zone-là, elle est protégée de toute co-visibilité. Donc, une délégation de 2 inspecteurs généraux du ministère de l'Environnement sont venus nous rendre visite en 2016.
En septembre 2016,
en septembre, oui. Septembre 2016, ça. Pour voir s'il y avait d'autres... cette délégation avait été demandée d'une part par le préfet de département de la Vendée et lors d'une des journées que nous avons eues dans le cadre justement de la transition énergétique, j'avais fait une demande directement auprès de la ministre Ségolène Royal, donc qui a fait cette même demande. Donc voilà, la délégation est venue, elle a visité les lieux pour voir où ce serait le mieux de placer cette ferme photovoltaïque. Et manifestement, de leur point de vue, l'endroit le meilleur, ce serait effectivement au Corbeau. Et donc, on est dans l'attente, mais c'est une attente qui dure. Et on ne comprend pas très, très bien pourquoi nous n'avons toujours pas de réponse. Normalement, il devrait y avoir un rapport qui devrait être fait par ces 2 inspecteurs. Et nous n'avons toujours pas le rapport. Donc, ce n'est pas oui, ce n'est pas non.
Non, on ne sait pas en gros, pour l'instant.
Voilà, il y a une sorte de mystère. On a relancé un petit peu parce qu'il faut... Il faut essayer, d'être pédagogue aussi avec ces gens-là. Hein, on les a relancés en début d'année et nous n'avons toujours pas de réponse. Mais c'est une véritable épine du pied. Ouais.
Cette ferme de panneaux photovoltaïques, si elle se fait au Corbeau, l'île Dieu serait autonome en termes d'énergie?
Alors, pas complètement.
Il ne faut pas voir ça comme ça.
Non, mais en fait, c'est un bon exemple. En fait, si... le projet se fait à la pointe des Corbeaux. Je ne sais plus combien d'hectares ça représente, hein. Il y en a plusieurs. En fait, en termes d'équivalence de production électrique, ça couvrirait pas loin de 8 à 10% de la production électrique à l'île-Dieu. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, c'est quand même une grosse surface. Donc, ça veut dire qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en parallèle, d'une part, il faut faire baisser les consommations énergétiques, sinon les 2 courbes ne se croiseront jamais. Et d'autre part, il y a aussi des projets de particuliers qu'il faut mettre en œuvre. Les 2 sont complémentaires. Il n'y a pas que des projets d'envergure comme ça. Il y a forcément des petits projets de particuliers.
Petits projets de particuliers, on pense notamment à une petite éolienne. Est-ce que c'est possible, envisageable, faisable sur l'île-Dieu?
Ouais,
Samuel, Michel.
C'est faisable, bien évidemment, puisque l'île-Dieu, il y a du vent. Est-ce que c'est souhaitable? Je suis pas sûr qu'on puisse le généraliser, quoi, je dirais.
Ouais,
s'il y en a quelques-unes, après tout, pourquoi pas, mais pour l'instant, il y a toute la problématique du parc éolien qui, déjà, je dirais, fait qu'on souhaite plutôt nous favoriser le solaire.
Samuel, un avis sur cette idée?
Alors, c'est vrai qu'a priori, ça paraît une bonne idée. Après, quand on creuse techniquement, c'est tout de suite très compliqué à mettre en place et c'est moins intéressant que des panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Parce
personnel.
Que les petites éoliennes de maison, elles fonctionnent sur des vents turbulents. Et rapidement, à ces hauteurs-là, il y a des obstacles, il y a des arbres, il y a des maisons, et donc on est sur des vents tourbillonnants. Donc l'éolienne, elle ne va pas produire continuellement comme on peut le voir sur les éoliennes de Boin ou sur le parc éolien, mais elle va sans arrêt changer de direction, elle va se retourner, et donc elle ne va pas forcément produire efficacement. C'est un peu le problème qu'on a avec les petites éoliennes. Ça ne veut pas dire qu'à certains endroits, sur certaines maisons, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut bien regarder le sujet, et ça fait justement notamment partie des questions qui peuvent être tout à fait traitées avec l'espace Infoénergie, parce qu'ils peuvent complètement aider à regarder précisément par rapport à votre maison, si oui ou non, ça peut être un projet intéressant à étudier. Parce que ça coûte assez cher aussi. Hein.
Samuel, merci beaucoup de toutes les informations.
Mais merci Roland.
Michel, à très bientôt.
Merci Roland.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, direction Avrillé à quelques minutes des Sables-d'Olonne pour découvrir le château des aventuriers. On en parle plus en détail avec Landry Quierot, le directeur adjoint. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.